Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, le ravi Radio Grenouille, une émission animée par Michel Guéraud et Raffi Amal, et avec nous aujourd'hui Nathalie Pigameau, bonjour.
Bonjour.
Nathalie Pigameau, vous êtes conseillère municipale PS de Marseille et vice-présidente du groupe Faire Gagner Marseille, une tradition dans cette émission. C'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Commençons par le rêve, suscitons le désir. Lorsque vous lancez en ces termes votre campagne il y a 6 mois pour diriger la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, beaucoup se frottent les yeux. La Fédé 13, engluée dans les querelles internes et les casseroles politico-judiciaires, on la trouve habituellement plutôt au rayon cauchemar. Et voilà qu'une jeune élue, presque inconnue du grand public, monte au front de la rénovation en proclamant que c'est avec beaucoup de naïveté qu'on réalise de grandes choses. Pas forcément de grands scores. Seul Kamikaze a défié Jean-David Ciotte, candidat à sa succession. Vous obtenez 29%. Ce proche de Jean-Noël Guérini a donc été plébiscité par 71% des militants. Mais vous ne lâchez toujours pas l'affaire, en réclamant ce mois-ci par exemple la démission de Ciotte, tout juste mise en examen pour recel de détournement de fonds publics. La direction nationale du PS vous a entendu en plaçant la Fédé sous tutelle. Vos leitmotifs, favoriser de nouvelles pratiques politiques, attirer de nouvelles forces, mettre en avant de nouveaux visages. Cela dit, malgré vos 34 ans, votre engagement au PS n'est plus tout à fait nouveau. Vous y êtes adhérent depuis vos 18 ans. Votre première candidature au municipal à Marseille remonte déjà à 2001. Depuis 2005, d'abord au titre des MJS, vous siégez dans les instances nationales du PS. Vous faites vos gammes au NPS, alors le courant d'un certain Montebourg. En 2007, à 28 ans, vous avez même conduit une liste aux législatives. Dans un bastion de droite face à Dominique Tian, vous obtenez 17 et quelques pourcents. Égérie d'un renouvellement politique et générationnel, vous vous inscrivez pourtant dans deux traditions très marseillaises. Comme Sylvie, comme Christophe, vous êtes aussi fille d'eux. Votre papa Bernard Pigameau était un proche et un adjoint de l'éternel Gaston Defer. Vice-présidente du groupe PS d'opposition en mairie de Marseille, vous êtes également salariée comme secrétaire générale du groupe socialiste de la communauté urbaine. Je résume, nouvelle peut-être, mais vous n'êtes pas née de la dernière pluie.
Nathalie Pigameau, un commentaire sur ce portrait à la sauce ravie?
Non, il est très juste. Après, je crois que l'essentiel, c'est pas d'où l'on vient, mais qui on est et ce que l'on fait.
Ça, c'était pour répondre à la question de l'héritage au sein de la Fédé. Alors commençons tout de suite par la grosse actualité du moment, c'est la mise sous tutelle de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône. Certains l'avaient réclamé, comme Michel Peset, et d'autres encore, c'est fait. Les secrétaires nationaux Alain Fontanel, qui est secrétaire national aux fédérations, et Christophe Borgel, secrétaire national aux élections, dirigeront la structure jusqu'au 21 mars 2014. C'est une bonne nouvelle ?
Une bonne nouvelle, on va pas dire ça, parce qu'on n'est jamais très satisfait de voir sa propre fédération, dans laquelle justement on a milité depuis des années, être mis sous tutelle. C'est pour ça que même moi, d'ailleurs, j'ai hésité avant de demander cette mise sous tutelle, parce qu'effectivement, on pouvait se poser la question et on voulait peut-être une mise en retrait, une direction beaucoup plus collégiale. Mais bon, force est de constater que le système était toujours complètement verrouillé dans cette fédération et qu'il n'y avait pas de changement. Parce que si on revient en arrière depuis quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Guéraud le disait à juste titre, il ne s'est pas passé grand-chose à la fédération, il s'est passé quelque chose peut-être d'historique. Parce qu'une candidate se présentait contre le premier secrétaire fédéral sortant et ça n'avait jamais été le cas. Là, ça a été le cas, mais je ne vois rien de dramatique dans cette élection. C'est, apparemment, c'était plutôt un signe de démocratie pour moi. Et or, on a eu un blocage total. Plus d'instances fédérales, plus de débats. Il ne s'est plus rien passé pendant cinq mois.
On reviendra sur les détails, un petit peu le rapport Richard et ce qui en est suivi. Cette décision de mise sous tutelle de toute la Fédération des Bouches-du-Rhône, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu mettre juste Marseille sous tutelle et laisser le reste de la Fédération, qui finalement est puni au même titre que Marseille?
Mais non, puisque c'est le problème, il est posé dans la fédération. Le problème, il se pose avec le premier fédéral, avec une fédération qui n'a pas d'instance fédérale. Et les problèmes ne sont pas que parce qu'il y aurait plusieurs leaders marseillais candidats aux primaires. Ça n'a rien à voir. Alors, les problèmes de la fédération.
Pour parler concrètement, pour les auditeurs qui nous rejoignent, qui ne sont pas forcément férus de politique, c'est quoi le problème? Alors, qu'est-ce qui fait qu'une direction nationale dit « ça ne fonctionne pas, il faut être sous tutelle. S'il faut le dire en quelques mots, là, pour des non-initiés, c'est quoi le problème
Ah ben, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une fédération qui, depuis 5 mois, alors qu'il s'est juste passé une élection, n'avait plus aucune instance fédérale, n'avait plus de débat, n'avait plus de lieu de vie, et qu'on se retrouvait à 1 an des échéances municipales, et que du coup, on n'était pas vraiment en force d'attaque pour pouvoir commencer ces élections. Et du coup, tous ces problèmes ont fait que la direction nationale a commencé fortement à se poser des questions. Et puis après, bien sûr, on ne va pas se cacher, il y a eu aussi les mises en examen de différents personnages qui ont certainement influé. Le fait que le premier secrétaire fédéral ne s'exprime pas en disant « c'est du droit privé, ça ne concerne que moi », ce n'est pas possible, ça. Quand on est un élu politique, on doit donner des principes et on doit donner des actes devant tout le monde en tant que premier secrétaire envers ses militants, en tant que député, envers les citoyens.
Je rappelle que Jean-David Ciot, pour les auditeurs, a été mis en examen pour recel de détournement de fonds publics. Hein.
Exactement. Donc, il devait nous dire quelque chose. Il devait nous expliquer ce qu'il comptait faire, comment il entendait protéger sa famille socialiste, etc.
Pour vous, il aurait fallu qu'il démissionne suite à cette mise en examen ?
Mais qu'il se mette en retrait, l'ont fait les grands leaders politiques à un moment donné. Ça ne veut pas dire que... Comme Cahuzac. J'ai dit les grands leaders. Ça paraissait normal. À 1 an des échéances, on veut protéger sa famille socialiste quand on l'aime tant, puisqu'elle nous a fait élire député, maire, vice-président d'une agglomération. C'est important de vouloir protéger cette famille-là.
Alors, je reviens un peu en arrière sur cette élection. Vous dites que ça a été une première. Vous avez fait un score, effectivement, on peut dire honorable, puisque c'était une première qui est un candidat alternatif au secrétaire fédéral sortant. Malgré tout, il a été élu avec 71% des suffrages des militants. Mmh. C'est une énorme majorité. Mmh. Vous contestez ce chiffre-là et sa légitimité sortie des urnes ?
Non, moi, je ne conteste pas du tout le fait qu'il ait été élu. Je n'ai jamais contesté ça. Je le vois à droite et à gauche en disant que, soi-disant, j'aurais contesté ça. C'est marqué nulle part, à aucun recours. On a eu des responsables nationaux qui sont venus lors des élections. On a contesté plusieurs votes. J'ai regretté notamment le fait qu'il n'y ait aucun débat qui soit mis en place durant cette élection, parce que si on regarde les 27 villes où je suis majoritaire, c'est les villes où j'ai pu me rendre, où les secrétaires de section ont accepté de me recevoir et où j'ai pu avoir l'occasion de discuter avec eux. Donc peut-être que c'est pour ça que Jean-David Ciot ne souhaitait pas de débat pendant cette campagne.
Alors ce que j'entends là, pour parler quand même explicitement, vous semblez dire qu'il y a peut-être eu des fraudes dans le déroulement du scrutin.
Ah, des problèmes, il y en a eu, c'est certain. Je ne remets pas, ça n'aurait pas renversé la tendance, puisque 71% pour la renverser, il aurait fallu beaucoup plus de recours que cela. Mais on a déjà fait des recours. Il y a certains même été validés par Jean-David Ciot avant que finalement on ne tombe sur aucun accord. Mais son élection à lui, en tout cas, elle n'était pas remise en cause.
Finalement, les propositions, pour en revenir à cette fédération des Bouches-du-Rhône, les propositions de réorganisation qui ont été remises par Alain Richard, selon vous, n'ont pas abouti ?
Non, mais pas du tout. Enfin, ça intéresse très peu, j'imagine, les citoyens. Puis ils s'aperçoivent eux-mêmes de la mauvaise santé de notre fédération. Mais rien n'a été appliqué correctement. Rien n'a été discuté. Vous savez, ces histoires de 20%.
Jean-David Ciot dit que finalement, tout a été mis en œuvre, si ce n'est que certains traînent les pieds, etc. etc.
Voilà. Mais Jean-David Ciot, c'est tout va bien, Madame la Marquise. C'est encore pour ça que jeudi dernier, il a fait un conseil fédéral. Ça faisait 2 jours qu'il a été mis en examen. Les tendances et les sensibilités n'avaient pas été représentées, et puis on nous convie comme ça, puisque pas tout le monde n'était convié, mais on convie les amis à venir se rassembler et à revenir rentrer dans la fédération, et on annonce des instances comme ça, comme si de rien n'était.
Vous voulez dire que vous l'avez réellement appris par la presse, qu'il y avait eu ce congrès fédéral ?
Ah oui, en regardant Libération le matin, il y avait des rumeurs, bien sûr, ça, des rumeurs, il en court depuis 6 mois, donc on avait l'habitude des rumeurs. Quand on voit que c'est dans Libération, on se dit que c'est peut-être un peu plus vrai, mais c'est surréaliste.
En même temps, on n'a pas pu avoir pour des soucis techniques une question de Jean-David Ciot qui vous était adressée, et lui-même à propos de votre réaction sur le fait d'apprendre la réunion du congrès, dit que vous êtes de mauvaise foi en gros, et que finalement vous vous impliquez pas dans la vie de cette fédération des Bouches-du-Rhône.
Je ne peux pas m'impliquer dans la vie de la Fédération des Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de débat, il ne s'est rien passé pendant 5 mois. Citez-moi les réunions qu'ils font, parce que les réunions de section, j'y vais. Les débats qui sont organisés dans les associations, j'y suis. Où vous voulez que je m'implique? Mon travail en tant que secrétaire fédérale, j'estime que je l'ai fait, sinon je n'aurais pas été reconduite depuis des années à ce poste-là. Et la mauvaise foi... Je vois pas où elle se situe, parce que moi, je n'ai jamais reçu de convocation pour ce Conseil fédéral et je l'ai appris dans Libération. Donc, je vois pas de quoi il parle.
Michel Léon ?
L'argument de la direction nationale, c'est de dire il faut éviter, pour mettre sous tutelle, c'est de dire il faut éviter que cette fédération se divise, se déchire, alors qu'il y a des échéances importantes, municipales en particulier, qui approchent. Ça vous paraît un argument sensé ?
Ah oui, ça me paraît un argument sensé. Effectivement, on peut dire que la fédération, elle n'était pas rassemblée. Elle n'était pas rassemblée puisqu'elle n'était pas réunie et qu'encore une fois, la réunion de la semaine dernière était une réunion qui ne représentait qu'une sensibilité avec les autres motions minoritaires. Mais elles avaient déjà discuté entre elles, donc c'était normal qu'elles soient présentes. Mais du coup, effectivement, on n'était pas prêt du tout à anticiper les élections municipales. C'était pas possible tel quel. Et c'est pour ça qu'effectivement, on avait alerté plusieurs fois la direction nationale à réagir.
Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré de mettre cette division sur le seul dos de l'ancien premier secrétaire? Il y a beaucoup d'ambition qui s'exprime avant ces municipales. Est-ce que la division, elle n'est pas là de toute façon dans cette ville, en particulier à Marseille?
Historiquement, c'est même l'ADN du Parti Socialiste Marseillais. Hein.
Beaucoup d'ambition pour ces municipales, pas de leadership évident.
Oui, mais qu'il y ait beaucoup d'ambition, moi, ça me paraît normal. On a des gens de compétences, de qualité dans notre fédération. Et effectivement, le débat est un peu plus riche chez nous qu'entre les leaders de l'UMP. Ça, force est de constater que d'un côté, il y a les endormis et des autres, les réveillés. Mais c'est pas parce qu'on a différentes ambitions qu'on a des clivages. C'est pas ça qui entraîne les clivages. Le problème, et c'est ce qu'on dit à Alain Fontanelle et Christophe Borgel, le problème, c'est qu'il y avait des dérives dans cette fédération et qu'il n'y avait pas la liberté d'expression qui permettait à nous tous de se rassembler. Et que, effectivement, Marseille est une ville qui doit être conquise par la gauche et que, partant de là, il fallait créer la structure pour pouvoir permettre cela.
Cette mise sous tutelle, c'est finalement la fin d'un système ?
Je l'espère. Je l'espère. C'est ce qui s'est passé dans l'Hérault. C'est peut-être ce qui se passera dans le Pas-de-Calais. Je l'espère sincèrement. Il faut. Je crois qu'on est dans une belle période pour Marseille. En fait, je crois que les gens, on le voit à travers ce qui s'est passé pour la subvention de David Guetta, à travers aujourd'hui ce qui se passe à la PHM. Encore avec cette prise de position courageuse de la direction nationale envers la Fédération du Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône, je crois qu'on est en train de s'apercevoir que les codes sont bousculés et que les personnes, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, quel que soit leur sexe, etc., et tout, ne se font plus diriger comme on se faisait diriger avant à Marseille et on était peut-être un peu tous trop endormis et qu'aujourd'hui on est une génération, et quand je parle de génération je parle pas forcément de jeunes, une génération à vouloir bousculer tous ces codes et à ne plus vouloir se laisser faire.
Est-ce que c'est pas un peu malheureux quand même qu'il faille que ça soit à Paris une direction nationale qui vienne finalement faire trébucher donc un système qui dysfonctionne comme vous le dites? Est-ce que ça ne prouve pas que vous et d'autres, ceux qui réclamaient un renouveau, n'avaient pas réussi à fédérer suffisamment de monde, des élus locaux, pour changer le système sans avoir recours à ce procédé?
Ben non, c'est notre direction nationale qu'elle agisse. Moi, ça me paraît légitime. Même nous, d'ailleurs, on leur demandait à prendre position et à s'exprimer. Donc, au contraire, c'est une bonne chose. C'est pas un échec pour nous. Nous, on s'est exprimé, encore une fois, en plus... La campagne, elle a été très courte face au premier fédéral sortant et elle s'est pas passée non plus dans des conditions idylliques. Donc bon, même si ça aurait pas changé, mais on a une écoute, on a une entente et en tout cas. Au-delà des militants, il y a une attente des citoyens sur la politique. Donc le fait que le Parti Socialiste, au niveau de sa direction nationale, réagisse à Marseille, au contraire, ça me paraît une bonne chose. Nous, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse une fois qu'il y avait une élection et à part demander la mise en retrait et de ne pas être écouté, effectivement, il fallait après que ce soit le national qui prenne le relais.
Un des reproches qui a souvent été fait à Jean-David Ciotte, c'est d'être toujours très très proche de Jean-Noël Guérini, et donc de maintenir la Fédération des Bouches-du-Rhône dans le sillage du président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
Jean-Noël Guérini, pour les auditeurs, c'est le président du Conseil Général mis en examen pour diverses affaires.
Est-ce que ce reproche, vous le faites vôtre ?
Ben, en tout cas, il ne s'est jamais exprimé contre la rupture justement avec le système dont on parlait, et il ne s'est jamais exprimé sur les prises de position que prenaient certains conseillers généraux. Il ne s'est jamais exprimé sur la situation. Il reconnaît lui-même qu'il est très proche de Jean-Noël Guérini, qu'il le fait par fidélité. D'autres le font parce qu'ils sont légitimistes. Bon, chacun a ses bonnes raisons de le faire, mais effectivement, il n'a jamais rompu avec ce qui a pu se passer. Et encore une fois, sa campagne contre la métropole était aussi un signe du nombre tutélaire de sa part qui existait. Oui.
Alors, est-ce que cette mise sous tutelle, pour vous, va permettre de libérer la Fédération des Bouches-du-Rhône de l'influence de Jean-Noël Guérini ? Est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce que vous appelez ça de...
Bien sûr. Moi, j'ai confiance et je... j'ai vu ce qui est sorti, j'ai que comme retour l'Hérault, et j'ai vu ce qui est sorti dans l'Hérault, de nouvelles têtes, de nouveaux cadres, une nouvelle mise en place beaucoup plus transparente de ce qui se passait dans la fédération. Donc je vois pas pourquoi s'ils y sont arrivés, pas nous.
Une fédération, ce n'est pas que des cadres et un dirigeant, c'est aussi beaucoup, c'est surtout même les militants. Vous pensez que les militants vont aller dans ce sens-là ? Il ne va pas y avoir une espèce de frustration sur cette mise sous tutelle de Paris ?
Mais... les militants, ils vont se rendre compte quand même que les choses quand même bougent. Moi, quand j'ai fait la campagne, c'est ce que je disais, j'ai eu beaucoup de secrétaires de section qui m'ont dit « Oh, tu comprends, c'est compliqué, tu peux pas venir chez moi parce que sinon ça serait ci, sinon ça serait là. » Enfin, je veux dire, à force...
Vous avez des exemples concrets, des sections où, vous pouvez nommer ces sections où on vous a interdit de venir, enfin, on vous a empêché pour pas avoir de soucis ?
Non, mais je vais pas... vous n'avez qu'à voir les sections où je ne suis pas allée. Pas toutes, mais il y en a beaucoup voilà, qui n'ont pas voulu me recevoir. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur eux. Je comprends. C'est difficile de se défaire de certains atavismes que, comme vous l'avez dit, qui sont depuis des années dans cette fédération. On va pas transformer Marseille demain, on va pas transformer notre fédération après-demain non plus. Donc il faut du temps. Je comprends que jusqu'ici, à présent, c'était le culte du chef. On est dans le sud, c'est Marseille, on aime les leaders, on aime le charisme, on aime si. Enfin, jusqu'à présent, on a souvent cherché ça. Aujourd'hui, les gens, maintenant, s'attachent beaucoup plus au projet, beaucoup plus aux actes, beaucoup plus au concret. Donc, on est en train de changer dans une période. Donc, ça va aller doucement. Et moi, je crois que les militants se disent, jusqu'à présent, c'était facile. Vous savez, on disait, ah, mais regardez, on me laisse faire ce que je veux, en toute impunité, je peux continuer. Donc, les gens, après tout, se disaient, bon, on a tendance plutôt à se dire on va aller du pouvoir, pourquoi s'embêter à faire la révolution, puisqu'on n'est pas entendu. Aujourd'hui, ils sont entendus. Aujourd'hui, il se passe quelque chose. C'est historique. Il y a une prise de décision. Donc il faut qu'il la saisisse. Et moi, je fais confiance aux militants sur ça.
Alors tout à l'heure, vous avez évoqué ces multiples richesses à Marseille. Et pour canaliser ces richesses, justement, Solferino a décidé d'organiser des primaires. La mise sous tutelle, c'est la garantie de primaire équitable, selon vous ?
À la condition sine qua non que Christophe Borgel et Alain Fontanelle habitent à Marseille, oui.
Pourquoi ? Alors expliquez-vous. Pourquoi leur proximité géographique ferait que d'un coup, les gens pourraient se libérer ?
pas forcément eux, mais en tout cas, il va falloir qu'ils arrivent avec une équipe bien, on va dire, autonome, indépendante et soudée par rapport à Marseille. Enfin, vous connaissez autant Marseille que moi.
Alors, on les surnomme les Starkey Hutch, paraît-il.
Voilà, mais donc c'est pour ça. S'ils se surnomment les Starkey Hutch, c'est qu'ils ont bien compris ce dont Marseille avait besoin. Il y a d'un côté ce qui se passe dans la fédération, puis après les primaires, c'est aussi tout le côté. C'est beaucoup plus ouvert, normalement.
Concrètement, vous souhaitez qu'ils mettent véritablement les mains dans le cambouis ?
Ah, il va falloir, ça va être obligé pour assurer une transparence sur ces primaires et une équité entre tous les candidats et une réelle démocratie, parce que sans ça, les primaires sont viciées. Ça va être obligatoire, oui.
D'accord. Vous n'êtes pas parmi les multiples candidats qui se présentent. Vous n'êtes pas tellement favorable aux primaires, pourquoi ?
Non. Alors, voilà, je suis... En tant que suppléante de Jean-Pierre Mignard et une des animatrices avec Joël Canicave sur la campagne des primaires et après de la présidentielle, il aurait été compliqué pour moi de dire que je suis contre les primaires. Je suis favorable aux primaires.
En même temps, on peut être pour des primaires au niveau national et contre au niveau local.
Exactement. Hein. Seulement, voilà, tout à fait. Je dis que les primaires au niveau des présidentielles, et j'étais totalement pour, ne peuvent pas être de la même manière organisées dans une élection municipale. Forcément, les liens sont plus forts avec les citoyens, ils sont plus connus. Il y a dedans cette primaire, il y a des maires de secteur qui sont mêlés, il y a des, associations qui auront un peu plus de poids dans la présidentielle. Il y a des milliers de citoyens qui sont exprimés, ce ne sera pas le cas sur la municipale. Donc les barons locaux, ils auront forcément beaucoup plus de poids dans une municipale que ce qu'ils pouvaient avoir dans une présidentielle. L'enjeu va être beaucoup plus fort et j'ai peur qu'on s'enterre dans ça, que ce ne soit pas forcément les conditions d'une dynamique réelle.
Ce sera une primaire sous le signe de la violence, verbale en tout cas ?
Non, je ne l'espère pas. J'espère qu'en tout cas, on fera tout pour que ce ne soit pas, surtout pour que ce soit pas mis en place. Que ce soit, il faudra vraiment, vraiment, vraiment mettre en place de réelles conditions d'équité, d'équilibre et encore une fois de transparence pour arriver à ne pas avoir de problème. Parce que l'idée, alors, entre nous, les primaires, c'est pas ça, hein, le but. Le but, c'est qu'on gagne Marseille. Hein. Donc, si on sent que les primaires, faut pas les faire parce que ça risque de nous faire perdre des points, ne les faisons pas. Moi, j'ai pas peur de le dire.
Sauf que vous le dites pas vraiment. C'est-à-dire qu'on sent que vous êtes réticente. Vous dites pas, franchement, non, au niveau municipal, ne faisons pas ça. Est-ce que vous êtes, vous dites, bon, il y a beaucoup de risques, vous êtes un peu entre
deux. Le problème, c'est que pour l'instant, on connaît pas les tenants et les aboutissants de cette primaire. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire non. Je vais pas vous dire non comme ça, parce qu'effectivement, les primaires peuvent apporter de bonnes choses. Mais il faut que je vois comment on va mettre ça en place.
C'est quoi votre crainte? Parce que maintenant, la fédération étant sous tutelle, donc a priori contrôlée par le national et qui dit on va assurer l'équité de ce scrutin. J'ai bien entendu votre crainte sur l'influence des barons locaux. Vous pensez donc que les tenants du système que vous dénoncez vont encore avoir la main sur ces primaires si elles ont lieu? C'est ça la crainte?
Ah oui, mais complètement. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il va falloir... parce qu'on n'aura pas, je vous dis, on n'aura pas tous les Marseillais qui viendront. Il faut que, pour qu'il y ait une véritable équité, transparence, etc., qu'il y ait un vrai élan démocratique. Sauf que bon, on voit le taux d'abstention quand même dans les élections. Donc on s'imagine que dans une primaire...
Les municipales ont toujours été une exception. Il y a toujours eu un taux de participation assez élevé.
Oui, mais la primaire, c'est encore autre chose. La primaire, c'est quelque chose qui appartient à la famille, à la famille politique. Donc, on n'est pas encore dans l'élection du maire. Et si ça se fait en octobre, après, il nous reste 3 mois pour faire campagne. Donc, il va falloir vraiment gérer ça entre les différentes personnalités qu'on a.
D'accord. Juste un détail, les autres candidats à déclarer, Marie-Arlette Carlotti, qui est secrétaire d'État, vient de se déclarer candidate à la candidature pour Marseille. Eugène Caselli, président de la communauté urbaine également, ils ont lancé tous leur sing-song entre guillemets. Patrick Minucci fait lui carrément un meeting au Palais des Sports. Finalement, vous n'êtes pas entendu.
Pourquoi ?
Pour les primaires, puisque chacun est sur la ligne de départ et même déjà parti. Donc, les primaires auront bien le...
Non, ils ont le droit de déclarer leur candidature. Aux dernières municipales, on avait plusieurs candidats avant de décider que ce soit Jean-Noël Grigny. Après, ils se sont tous retirés pour lui. Ils ont tous pensé que ça devait être lui qui devait conduire les municipales. Je veux dire, pourquoi ça ne va pas être le cas? Là, rien n'empêche de déclarer leur flamme à Marseille et l'esquisse de leur projet. Et pour après, dire qu'au final, il faut se ranger derrière un ou une candidate.
Et, c'est ce qu'elle aurait dans ce cas-là, Arlette Carlotti aimerait plutôt ce scénario. Elle plaide plutôt sur ce scénario. Patrick Minucci, lui, est un fervent partisan des primaires. Donc là, il y a déjà un petit écart entre deux.
Oui, mais...
Vous avez une préférée dans ce casting-là qui se dessine?
Pour moi, c'est comme une évidence.
Cette évidence?
Non, mais il est évident que pour moi, j'aimerais effectivement que ce soit Marie-Arlette Carlotti. Ça me paraît logique pour tout ce qu'elle représente et pour tous les combats que j'ai menés. Elle est l'incarnation et le développement même de ce que attendent les Marseillais.
Et encore, c'est-à-dire.
Non, mais encore.
C'est une femme, d'accord.
Oui, ça, c'est une femme. Bon, ça, c'est quand même pas. Vous voyez, c'est une femme qui le dit. C'est pas un gage de qualité véridique. Mais c'est bien, c'est bien. Il faut qu'on ait de plus en plus de femmes au pouvoir, je suis pour. Mais bon, c'est pas en tant que ça. C'est, dire, les combats qu'elle a menés. Depuis qu'elle est toute petite et qui ont amené aujourd'hui à ce ministère qu'elle ne doit qu'à elle-même et à la volonté du président parce que ça n'a pas, enfin voilà, c'est quelque part c'est une femme qui s'est un peu battue seule. Qui s'est faite toute seule, qui s'est construite toute seule et qui
Nathalie
aujourd'hui...
Pigamo, rappelons oui, quand même oui. que Marie-Arlette Carlotti a été élue, c'est une apparatchik du Parti Socialiste local.
Ça veut dire quoi une apparatchik?
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans le système depuis Bernardini, qui a voté régulièrement pour Jean-Noël Guérini, juste dernièrement d'ailleurs, en évoquant que c'était sous la pression de Martine Aubry et de Solferino, mais en tout cas, le fait est qu'elle a fait campagne aux dernières municipales avec et pour Jean-Noël Guérini, donc c'est pas une nouveauté absolue quand même, Marie-Arlette Carlotti.
Mais
c'est pas un renouveau.
C'est pas gentil. C'est pas gentil.
C'est la réalité.
L'expérience fait qu'aujourd'hui elle en est là effectivement. Mais je veux dire les prises de position qu'elle a prises publiques et non cachées sous couvert d'anonymat quand même disent bien ce qu'elle dit. Après, excusez-nous, mais effectivement, on est tous socialistes. Donc oui. C'est la vérité, on s'est tous retrouvés à un moment donné, alors peut-être moi un peu moins parce que je suis plus jeune, mais dans quelques années, vous me ferez peut-être le même reproche que Marie-Arlette Carlotti. Mais je veux dire, on est dans la famille socialiste, à un moment donné, c'est soit on se bat pour ses idées, pour ses valeurs avec les gens auxquels on est, et ça ne nous empêche pas de dire qu'on est contre ces personnes, encore une fois. Moi, j'ai fait campagne contre Jean-David Ciot, elle a dit que Jean-Noël Guérini devait démissionner, elle a quand même dit très, très clairement. À un moment donné, elle a fait des reproches à François Bernardini quand il fallait le faire. Elle s'est toujours exprimée sur ça. Enfin, je crois pas qu'on puisse lui reprocher à un moment donné d'avoir donné quitus avec un blanc-seing à l'équipe. Après, forcément, à un moment donné, vous trouverez tous des photos où on est tous assis à côté l'un de l'autre. Mais on est dans la même famille. C'est obligé.
Alors justement, à droite, évidemment, c'est un argument qui ne manque pas d'utiliser en disant tous ces gens, c'est une querelle de famille, mais tous ces gens sont ensemble et depuis longtemps, donc, y compris ceux qui réclament un changement de système, ils en sont issus. Certains ont même rêvé à un moment d'un parachutage, d'amener justement un nouveau visage de l'extérieur.
C'est un peu le rôle souhaité par certains pour Mignard.
Comment justement contrer cet argument qu'il peut porter, y compris auprès des électeurs marseillais, en disant ils sont effectivement issus d'une même tradition politique, de même pratique, ils ont grandi politiquement ensemble, tous ces gens, les Carlotti, les Menucci, les Caselli, les Galli.
En mettant les pieds dans le plat, on va dire que dans la Fédé, les Bouches-du-Rhône, les gènes comptent toujours davantage que les idées.
Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le pensez. Encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous au Parti Socialiste. On a toute notre carte du PS. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fallait? Que ce soit nous qui quittions le parti? Ben, je veux dire, moi, on ne me fera jamais partir de mon Parti Socialiste. Moi, je m'exprime en Conseil fédéral, je m'exprime à l'intérieur, je m'exprime à l'extérieur, je m'exprime envers les citoyens. Je dis ce que j'ai à dire contre ces personnes. Si elles, je ne suis pas d'accord avec elles, je leur dis aussi. Mais ce n'est pas elles qui vont me faire partir de ce parti. Ce parti, c'est le mien. Et quand je suis élue au nom de ce parti. Après, qu'il y ait des personnes malhonnêtes dans ce parti, c'est une chose. Ça serait à nous de leur laisser la place. Et pourquoi à l'UMP, quand ils ont leur problème, on leur dit de quitter l'UMP? On leur dit pas de quitter l'UMP. Oui, oui, on a tous effectivement grandi ensemble. Mais comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, l'important, c'est pas d'où on vient, mais où on va et qu'est-ce qu'on dit et comment on s'exprime sur les situations mises en place.
La grande tchatche, le ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille avec nous aujourd'hui, Nathalie Pigamo, Michel.
Alors vous siégez au conseil municipal et donc la mairie de Marseille, effectivement, tout le monde s'en souvient, n'est pas administrée par un socialiste, mais par Jean-Claude Gaudin, qui lui aussi s'inscrit dans une grande continuité depuis 15 ans.
Presque 18.
Vous pensez qu'il faut mener une opposition un peu musclée, un peu frontale vis-à-vis de ce bilan, ou plutôt essayer de s'inscrire dans une critique constructive? Est-ce qu'il y a un choix à faire à ce niveau-là dans le...
C'est comme au Parti Socialiste, il faut tout faire pour être entendu. Quand on pense qu'un combat est juste et que les idées doivent être défendues, je pense qu'au début, on doit commencer par le dire doucement, gentiment, l'expliquer avec pédagogie. Et puis, si on n'est pas entendu, de manière de plus en plus forte, puisque effectivement, c'est comme s'il n'y a que comme ça qu'on doit être entendu. Moi, je suis pour toutes les formes de critique du moment que le combat est juste, oui.
Des petits réglages techniques maintenant que la fédération est sous tutelle. Qui va prendre la parole au nom de cette fédération pour apporter un projet, pour critiquer, qui va le faire ça? Jean-David Ciot, lui, va démissionner, vous le souhaitez pas, qu'il reste porte-parole, comment vous voyez ça?
La fédération est mise sous tutelle, donc non, il peut plus, il n'est censé plus pouvoir s'exprimer au nom de la fédération.
Après, il est quand même socialiste.
Oui, mais il peut s'exprimer en tant que militant, comme moi, effectivement. Mais après, sur les affaires de municipales,
Qui va porter l'opposition aujourd'hui
Au conseil municipal, on a un président de groupe, c'est Christophe Masse.
Hormis le conseil municipal à l'approche des municipales, qui va porter normalement? Traditionnellement, le kit, c'est la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, critique, émet des idées et elles sont reprises. Comment ça va se passer?
ça va changer ça, parce que moi je ne l'avais pas beaucoup vu. Alors c'est mais la mise en place de la primaire, avec, il nous parle d'une mise en place de la collégialité. Il va certainement y avoir des porte-paroles qui vont s'exprimer au nom du Parti Socialiste pour ça. Il faut leur laisser le temps de se mettre en place. On aura certainement des porte-paroles sur ça.
Ce que tu n'as pas à rappeler, Rafi, c'est qu'au conseil municipal, donc Christophe Masse est effectivement président, mais c'était il n'y a pas très longtemps Menucci, puis il y a eu un problème avec les élus considérant qu'étant engagés dans une pré-primaire, ils ne pouvaient pas porter la parole du groupe. Cette histoire-là, ça vous a semblé légitime aussi de mettre plutôt Masse plutôt que Menucci
Et est-ce que... Pourquoi pas vous?
Pourquoi pas moi, c'est vrai. Ouais. Faudrait leur demander.
Vous n'avez pas été candidate?
Ça, faudrait leur demander. Bon, on m'a pas trop laissé le choix. Mais.
On vous a empêché
non,
de.
Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. On m'a pas empêché d'être candidate, mais je pense que j'avais. Il n'y avait pas d'intérêt à s'immiscer dans ce débat qui, en fin de compte, était envoyé encore autre chose. Enfin, on le sait tous, on l'a bien vu. Moi, personnellement, j'ai pas signé la lettre de Christophe Masse. Ça fait pas... pour autant, je suis toujours sa vice-présidente.
Vous considérez que Christophe Masse fait partie de l'ancien système, entre guillemets, celui qui est proche de Guérini?
Non, je pense que Christophe Masse a pris une décision à un moment donné, qu'il a été soutenu par des gens, mais ça, après, c'est pas sa faute s'il a été soutenu par ces personnes-là. On n'est pas toujours soutenu par ce qu'on voudrait, mais il a fait qu'aujourd'hui, en tout cas, nombreux conseillers municipaux ne souhaitaient plus que Patrick Menucci soit le président, et Christophe Masse apparaissait comme un peu la personne de consensus pour apaiser. Ça, c'était en tout cas signe aussi qu'il fallait apaiser les choses. Voilà, comme sous la fédération, le changement de président et la personnalité de Christophe, c'est aussi un signe d'une volonté d'apaisement pour moi.
Christophe Masse, qui sera peut-être lui aussi, on ne sait pas, candidat.
Au primaire, apparemment, le courrier qu'on avait dit disait qu'il ne fallait pas être candidat au primaire. Donc, je ne pense pas qu'il soit candidat. Maintenant, après...
Avec toutes ces histoires, il y a quand même quelques dossiers qui émergent. Alors, vous avez vraiment pris le flambeau des anti-Bernard Guetta. C'était un cadeau que vous a fait Godin. il a tendu la joue pour se faire gifler, c'est ça? Et vous avez envoyé
C'est juste... c'est juste la preuve que cette ville n'est pas gérée, qu'on fait, de temps en temps, on s'est dit, ouh, c'est super, l'année prochaine, il va y avoir des élections, on est capitale européenne de la culture, Tiens, il y a un chef d'entreprise qui arrive, qui peut faire venir Guetta. Bon, c'est super, c'est génial. Puis bon, on va faire plaisir les petits jeunes du 8e. On va mettre ça au Parc Broglie. C'est pas grave, hein, le Parc Broglie est en train de restaurer. On ne demande pas à l'architecte du bâtiment de France. Non, c'est bien, allez, faisons-le. Quoi. Mais voilà, bon, c'est le signe qu'il faut vraiment mais tout changer dans la gestion de cette ville. Quoi. C'est un peu comme le palais de la glace et de la glisse. Voilà, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, hop, on met 50 millions d'euros. On fait le palais de la glace et de la glisse sans réfléchir aux conséquences que ça a sur cette ville.
Il y avait 400 000 euros à mettre là-dedans, donc voilà. ça prouve qu'il y a quand même un peu d'argent qui circule dans cette mairie.
J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire de ces 400 000 euros.
Peut-être effectivement les auditeurs aussi. Marseille-Provence 2013, c'est un pétard mouillé, c'est quelque chose qui quand même fait bouger la ville. C'est votre regard d'élu sur ce dossier de l'année 2013.
On leur a pas facilité les choses. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que autant on était tous pour Marseille-Provence 2013, parce qu'il y a eu urgence quand même à relever notre ville et à la montrer sous d'autres aspects. Donc on s'est dit, allons-y, Marseille-Provence 2013, preuve que la ville n'était pas en capacité de porter la candidature, ce sont des personnes extérieures quand même qui se sont regroupées avec toutes les collectivités pour porter cette candidature. Donc ça a été difficile à se mettre en place. Après, il y a eu cette fameuse soirée du 12 janvier
l'ouverture.
L'inauguration de Marseille-Provence 2013. Alors, peut-être qu'à tort, je ne pensais pas, mais moi-même, j'ai pris le métro, donc je sais ce qui s'est passé ce soir-là, puisque je l'ai vécu. Et pour moi, j'ai vu cette soirée comme un immense espoir, mais vraiment comme un immense espoir. Se dire, voilà, les Marseillais, ils y croient. Les Marseillais sont là, ils répondent présents, ils ont envie, il faut que leur ville bouge. Ils nous disent, OK, on vous fait encore confiance. Et après, quelques mois après, on vous annonce Guetta à Borély pour 400 000 euros et pour 20 000 personnes. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de faire des choses comme ça insensées, quoi. Il faut vraiment qu'on redonne espoir à nos citoyens et aux Marseillaises et aux Marseillais, et pas en faisant de la politique à la petite...
Marseille 2013, ce sera finalement un enjeu pour les municipales. Sa réussite profitera à qui, en définitive? À Jean-Claude Gaudin, si ça marche. Si ça marche pas, ce sera à cause de lui.
Mais regardez, Jean-Claude Gaudin, il s'y est pas trompé. Dans sa pub, il a dit merci aux Marseillais. Il a pas dit merci la ville de Marseille. Merci. Non, il a dit merci aux Marseillais parce qu'il savait très bien que sans les Marseillais, ça ne marcherait pas. Et il sentait bien qu'il y avait un problème. Marseille 2013, à mon avis, ça ne profitera à personne si ce n'est à la ville elle-même, parce qu'on sait tous que c'est pas Jean-Claude
Finalement,
Gaudin
c'est un cactus,
et son équipe.
Ça sera pas un dossier récupéré au cours des municipales pour critiquer ou pour féliciter?
Pour féliciter qui? La ville?
Par exemple.
C'est pas la ville qui a fait Marseille-Provence 2013. On félicitera M. Chounier, oui. Et son équipe, ce seront aux Marseillaises et aux Marseillais de dire s'ils étaient convaincus. On nous dit que tout va exploser au beau jour, donc on va bien voir tout ce qui va se passer.
Mais quand on parle d'explosion, on en vient directement, on est à Marseille, à la violence. Alors Marseille et la violence, chacun a sa réponse pour lutter contre cette violence. Le président de la communauté urbaine, Eugène Caselli, lui propose une marche. Patrick Minucci lui propose de taxer les consommateurs de drogue, qui serait un facteur de violence. Jean-Claude Gaudin, lui, n'en parle pas trop. Samia Ghali en appelle à l'armée. Vous vous situez où, vous, Nathalie Pigameau?
Il en appelle à l'État, Jean-Claude Gaudin. Je me situe où? Je crois que c'est une question sur laquelle on ne peut pas répondre comme ça par un mot, quel qu'il soit. Encore une fois, quand je vous disais que Marseille est en train de se réveiller, je pense qu'on est sur ce sujet-là. On a une nouvelle preuve. Effectivement, ça nous retombe en pleine face, tout ce qui arrive à Marseille. Marseille a été endormie pendant des années. Rappelez, il y a des années, on se félicitait qu'il n'y ait pas d'émeute à Marseille. On se disait, c'est génial, regardez, nous sommes la seule ville où il n'y a pas d'émeute. Et eh bien aujourd'hui, on n'a pas d'émeute, mais on a des meurtres, quoi. Et ça nous retombe en plein dans la figure. Et on ne peut pas répondre, toutes les solutions sont bonnes, annoncer que vous venez d'annoncer, pourquoi pas, mais c'est pas comme ça qu'on
réglera. Il n'y en a aucune qui vous choque.
C'est pas comme ça qu'on réglera le problème. Il faut s'atteler à donner quelque chose à nos jeunes, à dire à nos jeunes Marseillais qu'ils sont Marseillais de toute cette ville, qu'ils ne sont pas cachés dans la misère humaine et qu'on ne les voit pas. Et si on ne donne pas de réponse aux centres sociaux, et si on leur donne pas, si on ne fait pas toutes les écoles qui puissent accepter des enfants à partir de 2 ans, si on ne donne pas des réponses économiques, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Si on ne se pose pas la question, pourquoi pas, de la légalisation du cannabis, on n'y arrivera pas.
Michel Guéraud,
vous êtes favorable à la légalisation du cannabis?
En tout cas, je suis favorable à ce qu'on se pose sérieusement la question. Il faut qu'on se la pose. Et moi, ce qui m'énerve.
Une formulation prudente.
Comment?
Une formulation prudente.
Mais oui, non, mais déjà de dire qu'on se la pose, il y en a, ils disent tout de suite, non, mais moi, je ne veux même pas en parler et se la poser. Moi, je crois, oui, sincèrement, que ça peut être une des premières solutions. Mais après. Il faut discuter, il faut débattre. Je ne peux pas vous dire oui comme ça sur les sujets. Moi, ce que je voudrais à Marseille, c'est que déjà, on se rencontre, on se parle entre nous, on discute. Là, chacun sort dans les journaux ou dans sa tête. Pourquoi on ne ferait pas ci, pourquoi on ne ferait pas là, pourquoi... Mais Marseille, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un comité interministériel. Ce n'est pas pour rien qu'à Marseille, les gens se sont dit qu'il faut se rassembler autour d'une table ronde et de discuter tous ensemble des problèmes. On ne peut pas, quand nous, en conseil municipal, on demande de grands débats sur la sécurité, de grands débats sur l'éducation. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut qu'on se parle entre les experts, entre les représentants de la police, les représentants du système éducatif. Il faut qu'on arrive à sortir Marseille de là.
Vous rejoignez l'avis de Jean Viard qui dit que finalement le PS est plus un parti de candidats que de projets?
Mais non, pas du tout. Des projets, on en a plein. Sinon, on n'aurait pas autant de candidats. Et d'ailleurs, ils ont tous des choses à dire. Regardez, ils fourmillent de projets. Après qu'au Parti Socialiste, il y ait des candidats, tant mieux. Le but, quand même, c'est que le Parti Socialiste gagne. Donc forcément, on a des candidats. Moi, c'est pas ça que je dis. Au contraire, c'est pas la faute du Parti Socialiste, là. C'est la faute de tous nos représentants qui n'arrivent pas à discuter ensemble, à faire de grandes tables rondes sur le problème de la santé, sur le problème de la sécurité, sur le problème de l'éducation. On répond toujours à ça, mais il n'y a pas d'argent, mais après il y a 400 000 euros qui sortent pour Guetta, après il y a 50 millions d'euros qui sortent pour le palais de la glace et de la glisse, après on arrive toujours à gratter un peu d'argent pour recouvrir le stade Vélodrome.
Le problème des banlieues, c'est pas 400 000 euros et même davantage qui vont le régler, la problématique est d'ordre national, non?
Mais d'ordre national, d'ordre local aussi. Il faudrait qu'on discute quand même avec nous de comment on gère nos structures dans nos centres sociaux. Pourquoi ne pas mettre en place dans toutes les écoles une ouverture pour les jeunes dès l'âge de 2 ans? Enfin, il y a des problèmes municipaux également.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'une table, la table interministérielle. Mais une des réponses qui a été faite par ce gouvernement, votre gouvernement socialiste, c'est Métropole. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, y compris dans les rangs socialistes, c'est une levée de bouclier, c'est-à-dire que c'est à celui qui freinera le plus fort, à quelques exceptions près. Sur ce dossier, vous pensez que la métropole peut être un accélérateur de changement ou pas?
Mais elle est vitale et elle est nécessaire, la métropole, et c'est encore une fois le signe que tout va changer à Marseille, puisque le gouvernement n'a pas l'air de vouloir changer d'un iota et mettra en place la métropole.
À repousser d'une année les dates
oui,
avancées initialement.
Oui, parce que je pense que ce qui était urgent, c'est de dire on la fera. Après, si on arrive à la faire un peu plus en douceur, ça sera toujours bien. Enfin, on n'est pas non plus des kamikazes. Pour enfoncer le clou comme ça. Donc si on arrive à inverser la balance et que ça se fasse en douceur, moi je dis pourquoi pas banco, mais en tout cas il faut qu'elle ait lieu cette métropole.
C'est quoi? Qu'est-ce que ça amène de positif alors? Parce que ça reste une idée un peu abstraite, un peu administrative. Qu'est-ce que ça peut changer dans les affaires? Ça permet de poser les problèmes à une autre échelle.
Ça permet de poser l'échelle à une dimension qui est beaucoup plus grande et ça permettra notamment pour les transports de faire discuter Aix avec Marseille. D'avoir une logique de politique de la ville à une échelle encore beaucoup plus grande et de discuter d'économie sur une échelle large, donc de pouvoir rencontrer plusieurs entreprises, de pouvoir discuter avec plusieurs acteurs économiques, d'avoir des moyens de financement un peu plus importants et du coup d'avoir une vision qui dépasse le petit bout de son nez.
Comment vous expliquez que certains acteurs politiques, et pas des moindres, Samia Ghali par exemple, qui est sénatrice des Bouches-du-Rhône, s'opposent fermement à cette métropole? Dernièrement, elle disait dans la presse que finalement, ça serait quoi? Ça serait un excédent de 50 millions d'euros, ça fait à peine 600 mètres de tramway. C'est pas la solution.
Je sais pas, écoutez, je... Je pense qu'à un moment donné... Ouais,
je reformule ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut prétendre à renouveler son mandat de sénateur, est-ce qu'il n'est pas de bon temps d'être contre la métropole?
Oui, peut-être. Peut-être, mais je pense que ça se retournera contre nous, cette histoire-là. Moi, je ne peux pas, à 34 ans, je suis obligée de défendre la métropole, je suis obligée de défendre un nouvel avenir pour ma ville, pour mon département, pour ma région. Enfin, ça y est, là, en ce moment, moi, je ne pense pas forcément pour moi. Je pense aux générations derrière, je pense à ma fille, et je sais pourquoi, moi, je fais de la politique. En tout cas, c'est clair. Peut-être que, effectivement... Si on avait écouté un peu plus les jeunes socialistes et qu'on avait supprimé le Sénat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais du coup, il y a peut-être des forces d'opposition qui jouent dans ce sens-là.
Michel Peset, qui était favorable à une mise sous tutelle de la fédération, qui est au départ de Ciotte, dit le scandale, c'était cette fédération qui se bataillait contre le gouvernement, contre le projet du gouvernement. Le département dirigé donc par Jean-Noël Guérini bataille aussi contre ce projet de métropole. Vous pensez que ça va changer quelque chose, là, la nouvelle donne aussi, ça pourrait débloquer le débat?
Ah ben j'espère qu'en tout cas ça mettra en place le débat. Vous vous rendez compte quand même, c'est hallucinant. On a ce débat sur la métropole qui depuis des mois et des mois se discute dans toutes les collectivités territoriales, dans tous les couloirs, et qui n'a jamais été abordé une seule fois dans la fédération du Parti Socialiste. On a le premier fédéral qui est le fer de lance de l'anti-métropole, avec les différents maires. Et quand on est premier fédéral, on est fédéral de tout un département. Il faut discuter avec tout le monde. Moi, je veux dire, je suis allée à Aubagne. Je sais que les Aubagnais sont contre la métropole, etc. Ça ne m'a pas empêchée d'être majoritaire dans cette section parce qu'on a discuté, parce qu'on a fait signe de pédagogie. Et que moi, je leur disais, si demain la fédération avait le débat sur la métropole et qu'il s'avérait qu'un nombre de militants importants votaient contre cette métropole, parce qu'on aurait pu faire un référendum des militants socialistes.
Ils l'ont fait,
hein,
il y a certaines communes qui ont fait des micros...
Des communes. Je parle de la fédération du Parti Socialiste qui aurait dû engager d'abord cette pédagogie et ces différents débats. Et à ce moment-là, il aurait pu être le porte-voix des militants. Là, il n'est le porte-voix que de lui-même et des autres maires. On ne fait pas ça quand on est premier fédéral. Et effectivement, Michel Peset a raison de dire que la fédération, là aussi, a été prise en otage. Mmh. On a été complètement prise en otage parce qu'à aucun moment on a pu aborder ce débat, à aucun moment on a pu exprimer pourquoi aux militants socialistes c'était important. On a entendu tout et n'importe quoi sur cette métropole, comme pour Jean-Claude Gaudin et le système scolaire et la réforme de Vincent Peillon. Tout et n'importe quoi. Qui a porté les arguments contraires? Personne n'a porté. On n'a jamais eu de lieu pour pouvoir dire.
Vincent Peillon, les rimes scolaires, vous êtes favorable?
Vous seriez faire attention à ce que je dis avec vous.
Vous seriez favorable à l'application dès la rentrée de cette réforme des villes socialistes comme à Lyon n'ont pas voulu y aller.
Mais parce que Lyon n'a pas les mêmes problèmes que Marseille.
Vous pensez qu'à Marseille, ça aurait été pertinent dès la rentrée de faire cette réforme?
Ah mais complètement. Et là aussi, pareil, si on s'était mis un
malgré
peu à
l'hostilité
travailler
d'une partie du corps enseignant
et à réfléchir, mais l'hostilité du corps enseignant, enfin, je sais pas si en discutant avec eux, on n'arriverait pas aussi. Enfin, il faut discuter, il faut parler aux gens, hein, sincèrement. Enfin, à un moment donné, nous, on s'exprime comme ça et on parle à personne. À un moment donné, si à Marseille, on avait été tous ensemble pour discuter, rencontrer le corps enseignant, rencontrer les parents d'élèves, rencontrer même les élèves. Enfin, Marseille, avec tous les problèmes économiques que subit cette ville et avec le problème qu'on a avec cette jeunesse au chômage et cette jeunesse qui sort du système scolaire de plus en plus tôt, ça me paraissait évident d'appliquer cette réforme.
Jean-Claude Gaudin dit on n'a pas l'argent pour faire tourner les cantines le mercredi.
Ben voilà. D'abord, le mercredi, il n'est pas obligé de mettre la cantine. Personne ne l'y oblige. Et de deux, alors qu'il arrête de mettre l'argent n'importe comment et n'importe où et qu'il fasse des actions qui seront plus importantes pour notre ville.
Quand on sait que Lyon, qui est beaucoup, beaucoup plus riche que Marseille, elle aussi évoque cette problématique de financement, on peut comprendre que Marseille, le maire de Marseille le dise également, non?
Oui, sauf qu'à un moment donné, Marseille, on n'a même pas discuté. On ne sait même pas si ce problème de financement existe ou quoi. Le maire, il sort des sommes comme ça, mais je ne sais pas d'où il les sort, ces sommes. Je ne sais pas comment il les a calculées, encore une fois. Si on ne pouvait pas mettre la cantine le mercredi après-midi, dans la loi de Vincent Payon, il n'est marqué nulle part que Marseille est obligé de faire cantine le mercredi à midi. C'est marqué nulle part.
Pour en revenir rapidement aux métropoles, il y a une initiative qui a été lancée il n'y a pas très longtemps par Jean Viard, qui est un ex-soutien de Jean-Noël Guérini, Jacques Boultex également, qui lance le GAM, le groupe d'action métropolitain. Alors le but de ce think-tank, entre guillemets, c'est de mettre la métropole au centre de la future campagne. Vous allez les rejoindre ?
Les rejoindre, oui, je suis invitée dans
c'est
le...
Proche
dans
Eugène Caselli,
dans
hein,
les,
c'est proche d'Eugène
Caselli. Dans les...
Les deux sont proches d'Eugène Caselli.
Ah,
hein.
Mon Dieu, alors je ne sais pas ce que je vais faire. Non, mais
à l'approche de 2014, comme on connaît les socialistes, tout le monde est prié de se positionner. Donc,
oui, mais
Marie-Arlette Carlotti
est une personne très ouverte. Elle ne m'en voudra pas si je vais discuter dans le GAM avec Jean Viard et Jacques Boulestex. Je pense pas qu'elle soit de ce niveau-là, vous savez. Donc, à mon avis, non, mais au contraire, c'est une bonne initiative. Et si ça permet... De faire influer le choix de certaines personnes sur la métropole et de comprendre la nécessité de cette réforme, et qui, pas que la réforme aussi de la métropole, hein, toute la réforme de la décentralisation, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de points qui sont importants dans cette nouvelle loi de décentralisation et qui vont changer beaucoup de choses. Donc, au contraire, j'irai volontiers discuter avec eux.
Municipal Marseille, le Front National n'en a pas parlé dans cette émission, mais il se trouve que eux ont déjà choisi leur candidat. Marine Le Pen a investi Ravier.
Stéphane Ravier.
Stéphane Ravier, je cherchais son prénom. Voilà, merci. Et on l'annonce sur des scores très importants. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est en politique pour combattre ça ?
Eh ben, on fait signe d'exemplarité, de probité. On construit un projet rapidement et on essaie de le défendre rapidement envers les citoyens.
Concrètement, probité, exemplarité, vous voulez dire quoi par là ?
Mais c'est-à-dire qu'on est exemplaire face à ces citoyens. Voilà, on est quelqu'un.
Donc
qui
vous demandez, n'est
pas...
vous avez demandé la démission de Jean Davizio. Paris vous a entendu. Est-ce que vous demandez la démission d'une autre élue députée qui a été également mise en examen pour fraude aux subventions ? C'est Sylvie Andrieux. Vous demandez sa démission ?
Elle va se retrouver. On va avoir le résultat de son procès bientôt. Elle s'était mise en retrait, en retrait d'elle-même. Donc
le procureur
elle décidera,
a déjà réclamé sa condamnation.
5 ans d'éligibilité. On va attendre la décision finale. Là, moi, je peux pas m'amuser à commenter ce qui va être décidé. Mais en tout cas.
Vous dites on écarte des municipales tous ceux qui ont des dossiers judiciaires.
Ben pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Est-ce que vous pensez que, parce que Stéphane Ravier s'est présenté face à Sylvie Andrieux, est-ce que les beaux scores qu'il a pu obtenir dans ces campagnes-là s'expliquent en partie par la nature du socialisme et la non-exemplarité, le climat qui peut être donné par ce type d'élu ?
Mais en tout cas, il est certain que les Marseillais attendent autre chose de notre part, et les Marseillaises, et en tout cas, il est temps qu'on finisse avec un système. Et donc, Il faut qu'on fasse campagne sur ça, parce que sinon ça ne profitera qu'au populisme. Et on a besoin d'aller discuter rapidement avec les citoyens, rapidement d'être en campagne, parce que le fléau le plus cruel pour notre ville, ça serait bien que le Front National continue
Nathalie
d'augmenter.
Nathalie Pigamo-Wisniewski, qui est élue Europe Écologie, avait dit que tous ceux qui étaient proches de Jean-Noël Guérini ne se présentent pas à une élection. Vous dites tous ceux qui ont des dossiers judiciaires ne se présentent pas à une élection ?
Ben, si en tout cas, on doit se poser la question. Voilà. On doit se poser la question de comment on fait campagne, avec qui on fait campagne et quel message on doit vouloir faire passer. Cette question mérite de s'être posée, oui.
Alors ici, on est à la grande chatch, on parle clairement. Vous dites en finir avec un système, donc la mise sous tutelle. Est-ce que l'étape suivante, c'est pas que le Parti Socialiste demande à Jean-Noël Guérini d'exécuter ce qu'il lui a demandé il y a déjà maintenant plusieurs mois, à savoir... d'organiser sa défense dans les affaires pour lesquelles il est mis en cause en démissionnant de son poste de président du Conseil Général. Il y a une assemblée plénière qui doit se réunir à la fin
du
mois.
Vote du budget le 29.
Est-ce que ce ne serait pas une demi-mesure que de s'arrêter à cette étape de la mise sous tutelle de la Fédération ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Et certains disent convoquer les conseillers généraux pour leur demander de se désolidariser donc du président du Conseil Général. Est-ce que vous êtes sur cette position-là ou sur quelque chose de plus conciliant ?
Écoutez, moi, je ne peux pas demander une prise de parole de Jean-David Ciotte et en tout cas sa mise en retrait pour pouvoir faire sa défense et pas demander la même chose pour Jean-Noël Guérini. Enfin, je suis logique avec moi-même. En tout cas, c'est sûr que si à un moment donné, comme vous dites, face à la montée extrême du Front National et face à la situation dans laquelle se trouve notre ville, nous, socialistes, ne nous montrons pas une image exemplaire, on va se poser des problèmes. Et moi, quoi de plus beau qu'a fait ce qu'a fait Jérôme Cahuzac avec la compétence qu'a cet homme. Encore une fois, il n'a pas hésité.
D'accord.
Qu'est-ce qui freine le National? Pourquoi tant de lenteur à faire exécuter une décision
Parce que Paris est parfois un peu loin de Marseille.
Le fait que François Hollande, qui est aujourd'hui président de la République, a été très longtemps premier secrétaire national du Parti Socialiste, en couvrant plus ou moins les affres des Guérini, ça joue ça dans la lenteur?
Non, je ne vois pas du tout de quoi vous... Honnêtement, hein, sincèrement, là, alors peut-être je ne suis pas au courant de tout, hein, c'est possible, hein, mais je ne vois pas de quoi vous parlez, parce que quand les choses se sont passées, il n'était plus premier secrétaire. Donc, après, s'il y avait des rumeurs et des trucs, à un moment donné aussi, on ne peut pas faire les choses tant qu'elles ne sont pas visibles.
Quoi. Donc, vous, concrètement, vous demandez à la fin du mois aux conseillers généraux socialistes de ne pas voter le budget du Conseil général pour mettre en difficulté Jean-Noël Guérini?
Pas forcément de ne pas voter le... Ils ne sont pas obligés de ne pas voter le budget. Le budget du Conseil général, on n'est pas obligé d'arrêter de faire fonctionner.
S'il n'y a pas une crise, les choses vont se dérouler.
Mais moi, j'en fais appel. Je fais appel aussi à l'intelligence de Jean-Noël Guérini pour l'avoir côtoyé. Je sais qu'il en a parfois, donc je fais aussi appel à son intelligence. Et je dis aux conseillers généraux de maintenant... Pourquoi pas faire un appel à un moment donné et de lui demander de prendre position clairement. Pourquoi pas? Il est temps, il est toujours temps. Et sans bloquer le budget d'une collectivité territoriale, parce que ça aurait forcément des conséquences sur tout le département, on peut lui demander de se mettre en retrait. Je pense que jusqu'à présent, ça a été fait que par quelques personnes. Si demain, il y a plus d'importance et si effectivement Paris s'y met aussi, on pourra peut-être déboucher sur ça sans bloquer pour autant la collectivité.
Vous pensez que cet appel, enfin cette idée-là a des chances d'être entendu compte tenu du bouger de la situation actuelle, ou alors on en est encore loin?
Lui répond clairement qu'il démissionnera jamais.
Écoutez, on ne dit jamais, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Donc, on verra bien ce qui se passera. Moi, vous savez, je ne me battrai pas sur le 6e et le 8e arrondissement et je ne me serai pas représentée dans la Fédération des Bouches-du-Rhône si je croyais que tout est impossible. Ce n'est pas ma façon de faire.
Alors, l'émission va bientôt se terminer. On a bien compris que vous étiez proche de Marie-Arlette Carlotti, c'était votre candidate. Vous pensez que sa position de ministre du gouvernement ne va pas être un handicap en ce moment? Le gouvernement et François Hollande n'a pas trop la conne en opinion, c'est difficile, c'est une gestion de crise. Est-ce que cette étiquette-là, sa présence au gouvernement ne va pas se retourner contre elle?
Non, ce sera un atout de vérité. Ça nous permettra de discuter encore plus à la rencontre des citoyens pour expliquer pourquoi le gouvernement fait cette politique-là. Vous savez, quand on est dans une période difficile, les gens sont pas forcément pour vous. Au contraire, ça nous permettra... Peut-être plus que d'autres qui ont plus tendance à être socialistes et à taper sur le gouvernement, nous, au contraire, à pouvoir défendre cette politique-là.
Vous serez candidate dans le même secteur?
Ah oui, toujours, c'est mon secteur.
En tête de liste, c'est toi?
On verra bien, je ne peux pas vous dire. Hein. Ce n'est pas moi qui décide, hein. C'est la tête de liste des municipales.
Nathalie Pigameau, on vous remercie. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec un tout autre invité. Bye.